Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait d'Assaut. Tous les deux mois, nous rencontrons une association du Nord des Hautes-Alpes. Une émission pour mieux connaître les acteurs et actrices de notre territoire, les démarches participatives et coopératives qui font vivre le réseau local. Cette série est réalisée en partenariat avec le Comptoir des Assauts. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans nos studios Anaïs Merdrignac, conservatrice de la réserve naturelle régionale des Parsias, salariée à l'antenne briançonnaise de la Ligue pour la protection des oiseaux PACA, la LPO PACA. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
La Ligue pour la protection des oiseaux, donc la LPO comme on l'appellera, est une association de protection de l'environnement française, fondée en 1912. Elle agit pour la biodiversité, par la connaissance et la protection des espèces, le développement et la préservation des espaces, la sensibilisation et mobilisation des citoyens et l'accompagnement des entreprises et des collectivités. Nous avons 30 minutes pour dresser un portrait de l'association, mais au niveau de ce territoire. Peut-être pour commencer, Anaïs, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter l'histoire de la LPO nationale ?
La LPO France, elle est née en 1912, donc elle est née en Bretagne, dans le département des Côtes d'Armor. C'était suite au massacre des macaremoines, donc c'est une espèce d'oiseau qui ressemble un peu à un pingouin avec un bec très coloré, qui est maintenant notre logo. C'est quelqu'un qui avait plusieurs objectifs, donc atténuer les effets néfastes de l'agriculture moderne sur les populations d'oiseaux en milieu rural. Il voulait lutter aussi contre les abus de la chasse et les piégeages pour le commerce des plumes, l'alimentation et les champs. Et après, il y avait tout le volet connaissance avec le suivi des migrations et le volet éducation à l'environnement. Voilà. Après, il y a eu en 1957, la première antenne locale qui s'est créée dans le Haut-Rhin, et après ça s'est diffusé un peu partout. Et en 1976, la première réserve naturelle nationale gérée par la LPO, et donc c'est la réserve nationale des Sept Îles en Bretagne.
Et aujourd'hui, c'est une association qu'on retrouve partout en France.
Oui, donc il y a plusieurs antennes partout en France, et ici en PACA, donc il y a la LPO PACA, qui a plusieurs antennes un peu partout dans tous les départements, donc une antenne au minimum par département, dont une antenne à Briançon.
Justement, quelle est la genèse de l'antenne briançonnaise ?
C'est en 2006 qu'un groupe local de bénévoles s'est créé. Donc c'est un noyau de quelques personnes qui a voulu créer ce groupe pour justement affiner les connaissances sur le territoire. Et voilà, c'était vraiment une volonté d'ancrer la LPO sur le territoire du Briançonnais.
Et vous, vous êtes salariée ? Vous êtes la seule salariée sur ce territoire ?
Alors ouais, à l'antenne de Briançon, donc je suis la seule salariée avec deux volontaires en service civique, des bénévoles, donc on est au moins une vingtaine d'actifs. Et sinon, il y a une responsable des Alpes du Sud, donc qui s'occupe des Hautes-Alpes et du département des Alpes de Haute-Provence.
Comme on le disait, la LPO est une association de protection de la biodiversité. Le nom LPO parle de protection des oiseaux, mais finalement, ce ne sont pas que les oiseaux.
Alors ouais, le nom, il a été créé donc en 1912, donc ça fait plus d'un siècle. Et en fait, la LPO, elle est vraiment connue avec ce nom. Et malgré qu'on soit maintenant diversifié, donc en gestion d'espaces naturels, en autres taxons que les oiseaux, la LPO, elle a eu une volonté de rester sous ce nom, parce que sinon, si on change de nom, ça va, les gens vont être un peu perdus. Mais sous notre logo, c'est agir pour la biodiversité. Donc on essaye de mettre plus en valeur ce slogan.
Faune et flore ou seulement faune ?
Alors la LPO, elle est plus spécialisée faune, généralement. À la LPO PACA, on a des experts en oiseaux, des experts en papillons, entomologie, donc la science des insectes, aussi en herpéto, donc tout ce qui est reptile. Au niveau flore, c'est vrai que c'est un peu plus... On a moins de spécialistes, on laisse ça au conservatoire botanique ou à d'autres experts.
Vous le disiez, la LPO est assez connue, elle est assez visible, on la voit lors d'événements. Vous avez une mission de sensibilisation et de mobilisation citoyenne auprès du grand public. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre principale mission ?
Alors c'est une des principales missions. En fait, la LPO, on a vraiment deux pôles séparés. Donc on a le pôle ICEF, donc c'est vraiment tout ce qui est éducation, sensibilisation, information. Voilà, on fait des animations, on est au niveau des stands, lors des événements... un peu partout. Et sinon, il y a le pôle conservation, expertise et connaissances. Là, c'est plus réalisation d'inventaire, études d'impact, gestion d'espaces naturels.
Je propose justement qu'on revienne sur ces deux aspects de vos missions. On va commencer par l'éducation, la sensibilisation. Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre, vous, sur ce territoire, à l'antenne briançonnaise?
Alors, on essaye, quand il y a des événements, comme le Forum des associations et d'autres événements où on peut être, on fait des stands d'information principalement, et pour aussi recruter des bénévoles. Donc là, ça peut être tenu par des bénévoles ou par moi-même. Sinon, on propose aussi des animations, des sorties chants d'oiseaux, par exemple, ou d'autres sorties avec d'autres thématiques. Et on propose aussi des conférences, des cycles de conférences. Donc là, ce sont des bénévoles qui les réalisent. Mais je peux aussi donner des conférences quand on est sollicité.
Et ces sorties ou ces conférences sont ouvertes à tout le monde?
Oui.
Quel est l'objectif finalement? Pourquoi sensibiliser le grand public à ces questions?
L'objectif, c'est vraiment de porter à connaissance, de sensibiliser au plus les habitants de la richesse de la biodiversité qu'on trouve sur ce territoire du Briançonnais, qui est quand même un hotspot de biodiversité et qu'il faut préserver au maximum. Donc on a la chance d'avoir des grands espaces où l'homme ne peut pas s'installer. C'est vraiment pour porter à connaissance et pour que les gens prennent conscience.
Au-delà de ces sorties, lorsque je lisais un petit peu les activités que vous proposiez, j'ai vu que vous aviez des refuges LPO. Alors, qu'est-ce qu'un refuge LPO ?
Un refuge LPO, c'est un refuge qui peut être sur des terrains privés ou publics. Donc, qu'on soit propriétaire d'un balcon, d'un jardin, ou que ce soit une collectivité, une entreprise ou même une commune, on peut avoir le label refuge LPO. Donc c'est un endroit où on met tout en œuvre pour accueillir le plus possible de biodiversité. Quand on passe refuge LPO, on reçoit un kit avec des fiches actions, un nichoir. Donc voilà, c'est vraiment pour aider les gens à préserver au mieux la biodiversité chez eux. Donc souvent on fait des inventaires avant et des inventaires après le refuge, donc quelques années après, pour voir s'il y a plus d'espèces, etc. Donc ça peut être des petites actions comme créer une mare, laisser un tas de bois pour l'installation des espèces.
Donc vous accompagnez à la mise en œuvre de ces refuges, est-ce qu'il y a des activités autour ?
Oui, on peut proposer, bah, par exemple dans les collèges ou même dans les écoles primaires ou lycées, on peut proposer des animations. Donc pour suivre le refuge, donc par exemple avec les éco-délégués du collège, on peut aller faire des ateliers création de mangeoires, création de nichoirs, faire des inventaires sur ce qu'il y a sur l'établissement. Au parc de la Chape, on fait aussi des suivis, donc le stock, donc c'est le suivi temporel des oiseaux communs. Et pareil, participation à la fête de la nature, ou des choses qui se passent à l'intérieur du parc.
Ces refuges LPO n'ont rien à voir avec l'accueil d'un animal blessé. Accueillir des animaux blessés et les soigner, est-ce que c'est quelque chose que vous faites ici?
Alors à la LPO à Briançon, non, nous on n'est pas capacitaire. Donc on peut pas recueillir, vous pouvez pas venir au local et nous apporter un animal blessé. Le mieux c'est de contacter le centre de soins Aquila qui est le plus proche. Donc c'est pas géré par la LPO, mais c'est le plus proche, donc vers Gap. Et sinon c'est vrai qu'à la LPO il y a un centre à Bioux, mais qui est beaucoup plus loin et c'est un peu plus compliqué d'y aller. Et sinon, si vraiment il y a un animal blessé, vous ne savez pas quoi faire, sur le site de la LPO, vous pouvez trouver toutes les fiches pour donner les premiers soins aux animaux blessés.
Vous parliez dans les sorties et puis autour des refuges, d'une participation à des observations, au comptage. Donc la LPO invite les citoyens à participer à la science. Qu'est-ce que c'est que la science participative déjà ?
Alors les sciences participatives, c'est des formes de production de connaissances scientifiques qui peuvent impliquer les citoyens, donc qui impliquent forcément les citoyens, des professionnels ou non, donc pas besoin d'avoir des connaissances. Mais voilà, c'est pour vraiment contribuer à des collectes de données, des observations. On a une base de données qui s'appelle Faune France, aussi Faune PACA au niveau régional, où tout le monde peut s'inscrire gratuitement et par exemple on entend une mésange chanter ou on la voit, on peut mettre sur cette application la donnée et nous en fait ça va nous aider à avoir beaucoup de données sur le terrain ou sur un site et comme ça s'il y a des mesures à prendre de gestion, on peut utiliser ces données.
Faut-il être formé pour participer ?
Non, on n'a pas besoin. Après, c'est vrai qu'on se sent plus légitime quand on a une petite connaissance à rentrer ces données. Ça peut freiner au début et dire, bah non, moi je ne connais pas et je peux pas rentrer. Il y a des, par exemple, sur d'autres formes de sciences participatives, par exemple, Phénoclim, on a des fiches qui nous aident à vraiment rentrer nos données. Et là, on se sent un peu plus légitime et on se dit, on tente. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ça nous permet d'acquérir des compétences, même pour nous, et des connaissances. Et du coup, tout le monde peut participer.
Il y a une dernière action destinée au grand public, entre guillemets, dont j'aimerais parler, c'est Biodiv Sport.
Alors, Biodiv Sport, c'est la LPO Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, qui a mis ça en place il y a quelques temps, c'est assez nouveau. C'est une base de données qui rend toutes les espèces protégées, les espaces protégés, donc les zones à enjeu pour la biodiversité. Ces données sont retransmises sur les sites comme Camp to Camp, Visorando, enfin tout ce qui peut, quand on veut aller sur un site, on regarde un peu notre topo, et du coup on peut voir par où on passe. Par exemple, on passe dans une zone de quiétude pour les tétralyres, donc là on va faire attention à bien respecter ces zones. Donc c'est vraiment de l'information pour le randonneur.
Les habitants des Hautes-Alpes sont souvent dans la nature. Est-ce qu'ils sont plus sensibles qu'ailleurs à ces questions ?
Je ne sais pas s'ils sont plus sensibles qu'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus respecté. Par exemple, dans la réserve des Parcières, on a des zones de mise en défense de tétralyres où on fait le suivi pour voir s'il y a des traces de ski de rando qui passent dedans. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus respecté et les gens sont de plus en plus au courant de ce qui se passe dehors. Et quand ils vont dans la nature, ils savent qu'ils entrent dans un territoire où il y a des espèces et où il faut faire attention. Tout le monde n'est pas informé, mais au moins on voit qu'il y a un peu plus de respect.
Vous dites parce qu'ils sont informés, donc pour vous, ne pas respecter ces zones, par exemple, est souvent issu d'une ignorance, d'un manque de connaissances ou d'informations sur les zones à protéger ?
Ouais, ça peut être un manque de connaissances. Donc on va sur un territoire qu'on connaît pas et du coup on sait pas trop où on va. Et on sait pas qu'est-ce qu'une zone de quiétude, par exemple, et du coup on passe dedans. Ouais, dans l'ensemble, c'est plus un manque de connaissances. Où là, la LPO, justement, essaye d'être visible et de porter à connaissance.
Si on veut participer, Anaïs, à toutes ces activités proposées par la LPO, que ce soit en tant que bénévole ou participer aux sorties, par exemple, comment on vous contacte ? Est-ce qu'il y a une adhésion ?
Alors, il y a une adhésion à la LPO nationale, donc qui est de 30 euros par an. Et sinon, au niveau local, on a une antenne à Briançon, où le groupe de bénévoles se réunit tous les 9 du mois, sauf jours fériés et week-ends. Donc la prochaine, elle aura lieu le 13 mai à 18h15 au local de la LPO à Briançon. Sinon, nous, on communique via une liste de diffusion par mail et par groupe WhatsApp.
Donc on peut vous contacter pour vous demander d'être ajouté sur cette liste ?
Voilà, vous pouvez nous contacter via une adresse mail. haute-alpes@lpo.fr.
Vous proposez également des formations. En quoi diffèrent-elles des sorties LPO que vous proposez, où vous apprenez déjà, par exemple, à reconnaître des oiseaux ? Quelle est la différence ?
On a un pôle formation, donc c'est un collègue qui s'en occupe, donc qui est formateur de profession. On a plusieurs thématiques naturalistes, donc les oiseaux, les reptiles, les papillons, donc plein de taxons naturalistes. Du coup, ça diffère des sorties qu'on fait avec les bénévoles, puisqu'il y a vraiment un volet théorique qu'on fait en salle pour vraiment avoir les bases.
Pour qui sont-elles ?
Ça peut être pour tout public, des bénévoles LPO aussi, des citoyens, des naturalistes, des amateurs ou des professionnels. Et on peut faire aussi des formations à la demande pour les professionnels ou les collectivités.
Est-ce qu'elles sont certifiantes, ces formations ?
Alors, c'est en cours pour être justement certifiées. Elles sont pas certifiantes, mais en fait, la LPO est agréée justement pour former les professionnels.
Et elles sont payantes ?
Et elles sont payantes, oui.
Avant de parler des missions de sauvegarde et de protection de l'environnement, je vous propose une petite pause musicale.
Sakalini
Nous sommes toujours sur Fréquence Mistral dans l'émission Portrait d'Assaut. Nous sommes avec Anaïs de la LPO PACA, Ligue pour la protection des oiseaux. Et nous venons de parler des missions de sensibilisation, qui sont vos missions les plus visibles finalement, puisqu'elles sont en lien avec le grand public. Alors avant de parler des autres missions, toujours sur la sensibilisation, est-ce que vous avez des actions de sensibilisation auprès de structures et non d'individus comme les collectivités ou les entreprises par exemple ?
Alors on peut en avoir au niveau régional, au niveau local, on en a un peu moins. On a fait quand même des formations, par exemple au niveau du parc de la Chape, qui est un refuge LPO, pour toutes les personnes qui s'occupent des espaces verts. Mais on aimerait bien justement développer ce volet pour que les communes et toutes les collectivités s'approprient le territoire et font face aux enjeux de la biodiversité.
C'est vous qui allez le proposer auprès des structures ou c'est elles qui vous sollicitent ?
Alors souvent c'est plus des sollicitations, mais pourquoi pas nous aller les solliciter pour parler de la biodiversité et tous les enjeux qui vont avec.
Voilà. Forcément ça prend du temps.
Ça prend du temps.
Donc la LPO, on le disait, c'est aussi l'étude, la connaissance de la biodiversité, la sauvegarde et la protection de l'environnement. On va parler de ça maintenant. Concernant les études, est-ce que vous êtes amené à réaliser des veilles dans les Hautes-Alpes, des études de certaines espèces ou de territoires ?
Oui, on fait partie des fois des plans d'action. Donc il y a des espèces qui ont des plans d'action nationaux qui font l'objet de comptages et suivis, par exemple le gypaète barbu. Où là, le groupe local est sollicité pour mettre en place, enfin, avec l'association Envergure Alpine, des comptages internationaux. Donc là, on a des postes dans les Hautes-Alpes et vers le Briançonnais. Sinon, on peut aussi participer à d'autres suivis, par exemple l'étude paroi qu'on avait mis en place l'année dernière, sur des espèces qui reviennent, par exemple la loutre. Donc on y met encore l'hypothèse, on n'est pas encore sûr qu'elle soit là, mais vers l'Argentière. Donc on a fait des prospections pour savoir si on trouvait des indices de présence. Donc ça peut être voilà, des actions ponctuelles comme ça.
Qui vous demande de faire ces études ?
Alors pour les plans nationaux pour certaines espèces, donc c'est au niveau national. Et sinon, pour des petites actions, c'est nous qui voyons, par exemple, on a des indices de présence, et c'est nous qui y allons pour confirmer ou non.
C'est pour vous.
C'est pour avoir des données, voilà, pour après, s'il y a des travaux dans une zone, on peut dire, bah attention, là, il y a telle espèce. La volonté du groupe local aussi, c'est vraiment d'aller dans des zones blanches. Donc, les zones blanches, c'est là où il n'y a pas trop de données. Donc, essayer de faire des camps de prospection pour faire un inventaire, en fait, de ce qui peut être fait sur cette zone.
Donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui allez faire cette veille. En fait, vous menez une veille locale sur les zones que vous décidez, et en fonction, vous agissez selon les données que vous avez recueillies.
C'est ça.
Qui les réalise alors ? C'est vous les bénévoles ?
Oui, c'est à la volonté des bénévoles des fois d'y aller. Et si on est sollicité par le département ou la région, donc c'est plus à titre salarié, aidé par des bénévoles.
La LPO donc préserve et sauvegarde à la fois des espèces et des espaces. Quelles sont les espèces à préserver sur notre territoire ici ? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais...
Il y en a beaucoup, oui. Nous, principalement, c'est surtout tout ce qui est préservation des habitats pour ensuite préserver les espèces. Et comme espèces à préserver, donc il y a forcément tout ce qui est galliforme de montagne, donc c'est le tétralyre, le lagopède alpin, principalement.
Vous disiez que c'est plus qu'une protection des espèces, c'est une protection des espaces ici. Pourquoi ?
Bah, si on ne protège pas les espaces, donc c'est l'habitat en fait des espèces, et du coup si ces espaces sont réduits ou si y a des coupes ou d'autres choses qui rentrent en jeu, et bah forcément les espèces elles auront beaucoup moins d'espace pour vivre, et donc tout ce qui est milieu pour leurs ressources alimentaires, pour se reproduire, donc c'est ça qui pourrait entraîner leur déclin.
Vous connaissez bien le sujet puisque vous co-gérez la réserve naturelle régionale des Parcias aux côtés de la commune de Puy-Saint-André et la région Sud. Qu'est-ce que cela signifie concrètement de co-gérer une réserve ?
C'est donc la LPO qui co-gère avec la commune de Puy-Saint-André. Donc c'est la région qui a décidé de ces deux co-gestionnaires. On travaille ensemble sur comment gérer cet espace. Et l'objectif de la réserve, c'est comment concilier les activités humaines avec la préservation de la biodiversité. Sur la réserve, il y a une salariée, donc c'est moi. Donc on a un plan de gestion à suivre. Et du coup, on se concerte souvent avec la commune de Puy-Saint-André pour savoir quelles mesures de gestion on peut mettre en place sur cette réserve.
Un plan de gestion que vous avez co-écrit ?
Oui, oui, il y a des relectures et c'est tout un travail de concertation, même avec les habitants qui sont sur la commune depuis Saint-André.
Quelle est l'histoire justement de cette réserve et le rôle que la LPO y a joué ?
Alors la réserve, elle est née en 2009, mais en fait l'histoire remonte vraiment à avant. Il y avait des projets d'aménagement de la station de ski de Serre-Chevalier qui voulaient investir le vallon. Et donc c'est une association, donc les Amis des Combes avec la commune de Puy-Saint-André, qui se sont unis et qui ont monté un dossier pour dire que non, nous, on veut garder ce vallon intact. Ils ont monté un dossier qu'ils ont envoyé à la région, donc c'était dans les années 1990. Et du coup, la région a accepté ce projet et donc c'est une réserve naturelle volontaire qui est née. Donc il n'y avait pas, comme aujourd'hui, une réglementation ou un plan de gestion, c'était vraiment pour éviter tout aménagement. En 2008, le statut de réserve naturelle volontaire a disparu, mais il y avait toujours cette volonté de protéger le vallon, donc c'est devenu une réserve naturelle régionale en 2009. La LPO a monté un dossier pour être co-gestionnaire avec la commune de Puy-Saint-André.
C'est sur demande de la LPO, donc ?
Oui, parce que le groupe de bénévoles qui s'est créé en 2006 faisait des inventaires et a eu cette volonté de conserver aussi ce vallon.
Qu'est-ce que vous entendez par une réserve naturelle régionale ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, en fait ?
Une réserve, donc, c'est un espace qui est préservé, protégé et réglementé. Donc, comme je le disais, c'est des concertations avec tous les acteurs du territoire. C'est pas une mise sous cloche. Il y a quand même du pastoralisme, il y a de la sylviculture, il y a des activités touristiques. Le but, c'est quand même de préserver au maximum la biodiversité et c'est comme un laboratoire, en fait, à ciel ouvert où on fait pas mal de suivi, d'inventaire et de tests pour justement proposer des solutions face au changement climatique qui est la grosse question du moment et le déclin de la biodiversité.
J'avais demandé quels sont les enjeux dans cette zone en particulier, y en a-t-il ?
Les enjeux, c'est la préservation des milieux. C'est une zone refuge pour la biodiversité, donc il n'y a pas d'aménagement. Il n'y a pas trop de traces humaines à part donc les activités. Mais voilà, les enjeux, c'est essayer de conserver au mieux les populations animales et végétales qui sont présentes sur le site.
Il n'y a pas d'espèce endémique ou particulière à ce site, en fait. C'est simplement non. Une zone refuge, comme ouais. Il pourrait y avoir dans d'autres vallons aux alentours.
C'est ça. Des fois, les réserves naturelles, elles sont créées parce qu'il y a justement une espèce endémique qu'il faut protéger à tout prix. Ici, c'était plus une volonté des locaux à préserver le site.
Comment travaillez-vous avec les autres acteurs et actrices de cette zone ? Est-ce qu'il peut y avoir des conflits ? Est-ce que tout le monde s'y retrouve finalement ?
Alors, c'est en concertation, donc ouais, on a des réunions avec tous les acteurs autour, donc Serre-Chevalier, les éleveurs, l'ONF, l'OFB, pour essayer au mieux de préserver cet espace tout en respectant aussi les volontés. En fait, il faut trouver un équilibre entre toutes ces activités et en même temps protéger la biodiversité.
Est-ce que vous êtes gestionnaire d'autres espaces ?
Alors la LPO, PACA, elle est gestionnaire d'une autre réserve dans le 06, donc c'est la réserve naturelle régionale des Gorges de Dalhuis. Sinon il y a la zone des Piles, donc c'est situé près de la Saulce, au niveau de l'échangeur de l'autoroute, et aussi les Salins d'Hier, et plein d'autres petits sites gérés par la LPO.
Mais pas ici dans le Briançonnais ou dans le 05, enfin à part la Saulce.
Non, à part la Saulce, non.
Et quelles sont vos autres actions en vue de la protection et de la sauvegarde ici dans l'antenne briançonnaise, s'il y en a ?
Quand il y a des aménagements où on apprend qu'il y a des travaux sur certains bâtiments, on essaye de voir s'il n'y avait pas des espèces qui étaient nicheuses. Donc là, ça peut être un travail bénévole où on se rend sur le site et on essaye d'avoir le plus de données possible pour justement argumenter pour la protection de la biodiversité des sites.
Ça vous arrive d'entrer en litige sur des sujets comme celui-là ?
Ça peut, ouais, ça peut. À la LPO PACA, on a un médiateur juridique où, par exemple, les bénévoles et moi, si on constate du braconnage ou justement des aménagements qui se font où il n'y a pas eu d'étude d'impact, on peut rentrer en litige, ouais.
Avant de finir cette émission, je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de vos actions. J'aimerais que nous intéressions plus précisément à vos méthodes de médiation pour les enjeux écologiques. Vous travaillez avec de nombreux publics, on l'a vu, vous êtes en contact avec plein de structures et en même temps les citoyens. Quels sont les publics les plus réceptifs à vos messages ?
Si on parle de tous les publics, je dirais les plus jeunes, en école primaire principalement. C'est là où on se dit qu'on est vraiment utile parce qu'ils retiennent beaucoup de choses et on essaye de planter une petite graine à chaque fois pour que ça marche. Après, souvent dans nos stands ou dans nos actions de sensibilisation, c'est plus des personnes, quand les personnes viennent nous voir, ils sont déjà un peu sensibilisés. C'est vrai que le plus dur, c'est d'amener les personnes non sensibilisées à venir au stand, à venir se déplacer, voir au niveau des sorties, champs d'oiseaux qui sont ouvertes à tout le monde, par exemple. C'est un peu plus difficile d'avoir des personnes non sensibilisées.
On y reviendra, mais avant, je voulais savoir, selon vous, pourquoi est-ce que ce sont ces jeunes qui sont les plus sensibles ?
Les primaires, ouais, ils ont encore leur vision d'enfant, où tous les intrigues, de la petite bête à la plus grosse bête. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de les sensibiliser.
Une forme de curiosité qui voilà, est encore là.
Ouais.
Et quels sont les sujets qui touchent le plus les habitants du territoire ?
En termes de biodiversité, ce qui les touche plus, je pense que c'est les espèces emblématiques. Donc le tétralyre, le lagopède alpin et tout ce qui est emblématique, le bouquetin, toutes les espèces qu'on voit. Enfin, on voit pas forcément le tétra ni le lagopède, mais le bouquetin, le chamois, c'est des espèces qu'on voit le plus. Pour la plupart des gens, ils les connaissent un peu plus.
Et quelles sont les causes environnementales sur lesquelles il est plus difficile ou plus complexe de mobiliser les gens ?
Et bien justement, le déclin de la biodiversité. Le déclin de la biodiversité, il est un peu moins connu que le changement climatique. Donc c'est un peu plus dur de parler de ça et de voir que les personnes sont informées.
Vous avez l'impression qu'ils vont plus réagir au changement climatique, qui est pourtant lié.
C'est assez lié, c'est forcément lié. Mais le changement climatique, on en parle beaucoup plus. Bon, le déclin de la biodiversité, ça arrive. Mais le changement climatique, c'est vrai qu'on en parle le plus. Mais après, si on fait des efforts aussi sur le changement climatique, ça peut avoir des effets positifs sur la biodiversité.
Quels sont les moyens de médiation qui marchent, entre guillemets, et qui vous permettent de sensibiliser les moins avertis ?
Eh bien, ça, c'est difficile, justement, d'avoir des personnes qui sont moins averties. Le mieux, c'est quand c'est des événements où il y a beaucoup de stands, où c'est assez large. Je pense à la foire bio d'Embrun, par exemple, où là, on a tout type de public. Et donc, on a un stand et c'est peut-être là où les gens peuvent être curieux et peuvent venir nous voir. Donc, c'est peut-être lors de ces stands.
Merci, Anaïs. Pour rappel, peut-être, comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Eh bien, si vous voulez, nous, on a un local LPO. Quand on n'est pas sur le terrain, on y est. C'est 11 avenue René Froger à Briançon, au niveau des HLM des Crocs. Et sinon, c'est sur l'adresse mail haute-du6alpes@lpo.fr. On a aussi un numéro de téléphone, c'est le 04 92 21 94 17.
Est-ce que vous recherchez des bénévoles, vous en avez besoin ?
On accueille tout le monde qui veut se former ou qui veut apporter ses connaissances, ses compétences dans le groupe. Donc oui, on a toujours besoin de bénévoles. Dans la réserve, moi je fais des appels à bénévoles souvent au printemps pour faire des suivis d'espèces. Donc par exemple les comptages au champ de tétralyre, les comptages au champ aussi des lagopèdes alpins. Mais ça peut être aussi des opérations de chantier sur la réserve. En fait, chacun est le bienvenu pour proposer des sorties, pour aller prospecter à un tel endroit où on connaît pas encore ce qui se passe. Donc tout le monde est le bienvenu, ouais, sans forcément avoir de connaissances.
J'ajoute que pour celles et ceux qui veulent rencontrer Anaïs et s'outiller avec elle sur de nouvelles clés pour toucher les publics autrement ou se mobiliser pour les causes environnementales, vous pouvez venir au prochain atelier du comptoir des assos, elle sera là. C'est un atelier ouvert à toutes et tous, mercredi 15 mai de 13h30 à 20h à la salle du Quairon de Guillestre. Vous pouvez retrouver toutes les informations et vous inscrire sur le site du comptoir, donc www.lecomptoirdesassauts.com. Et sinon, nous nous retrouvons sur Fréquence Mistral le mois prochain pour l'émission Ma Source d'Info, émission toujours en partenariat avec le comptoir des assauts. Et le prochain portrait sera quant à lui dans 2 mois, le dernier jeudi 2 juin. Merci à vous pour votre écoute et merci encore Anaïs.
Merci.
À bientôt.